Vous êtes sur RTL.
Il est 9h. RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal d'Agnès Bonfillon.
Et l'actualité, évidemment, c'est avec Agnès. Bonjour à vous.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
L'actualité, ce sont les Alpes-Maritimes et le Var qui ne sont plus en alerte rouge, mais ce matin, la situation reste très délicate.
Oui, d'abord direction Roquebrune-sur-Argence. Ce n'est pas la première fois que ce cours d'eau provoque des inondations dans le Var. Vous vous trouvez dans la commune en direct pour RTL, Vincent Serrano. Bonjour à vous. Vous nous entendez, Vincent?
Bonjour.
Bonjour. Roquebrune est totalement isolé, Vincent. Il est impossible de sortir ou d'entrer dans la ville.
Oui, et le pont juste devant moi est toujours envahi par les eaux. C'est le point d'entrée principal de Roquebrune-sur-Argence où viennent buter ce matin beaucoup de véhicules, des 4x4, des riverains qui souhaitent rentrer chez eux pour constater les dégâts. Il y a d'autres choses aussi qui butent sur ce pont. Ce sont les troncs d'arbres emportés par le courant. L'eau se déverse ensuite à une cinquantaine de mètres d'ici dans une habitation dont le portail est complètement éventré. Une eau qui est montée très vite hier après-midi. Francis a dû secourir dans l'urgence un membre de sa famille.
On a sorti une tanne qui était handicapée avec son mari, mais bon, elle a quand même 1,50 m d'eau dans la maison. Ouais. Ah, tout est foutu là. Dehors, il devait y avoir 2,50 m. Ah ouais, les meubles, tout, de toute façon. Là, elle est désespérée. En plus, ils sont handicapés tous les deux. C'est une catastrophe. C'est effrayant. C'est... Bon, maintenant, c'est sûr que ça va se calmer, ça va descendre. Ben, c'est là qu'on va voir les dégâts qu'il y a eu. Hein, parce que, à mon avis, il y en a qui vont avoir des surprises.
Et j'ai à côté de moi, justement, Bachir. Vous avez constaté ce matin les dégâts dans votre troupeau. Des dégâts considérables.
2 mètres d'eau dans mon dépôt, à l'intérieur de mon dépôt. Donc, tout ce qui est matériel donc, est foutu. Et le propriétaire de mon dépôt a été évacué et héliporté avec le membre de ses personnels. Ils sont actuellement en sécurité à la salle de Roquebrune. Voilà, ça faisait très 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 peur. Le propriétaire a même été emporté par un courant d'eau, il a été sauvé de justesse. Voilà.
Comment vous vous sentez ce matin?
Franchement, là je suis en stress, mais là c'est très 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 dur. Là c'est grave. Là. Ouais. Bon, on aimerait bien que l'eau baisse un peu pour essayer de sauver le maximum de matériel qu'on peut. Mais là, ça va être dur.
Au-delà de ce pont, les pompiers et les policiers restent positionnés pour empêcher à toute personne d'entrer dans Roquebrune-sur-Argence, alors qu'un hélicoptère de la sécurité civile continue de faire des allers-retours, notamment pour tenter de retrouver cet homme d'une quarantaine d'années porté disparu hier soir dans la commune voisine du Mouy.
Vincent Serrano en direct du Var pour RTL. Merci Vincent. Et on rappelle que 2 personnes sont portées disparues pour l'instant.
Et après ces heures de déluge, Agnès, les chiffres sont impressionnants. Hein.
Sachez que dans les 2 départements, le Var et les Alpes-Maritimes, 4500 foyers restent privés d'électricité. Près de Nice, un très gros éboulement a eu lieu sur la départementale près de Bouillon. La circulation est interrompue. Johan Boutens, sous-préfet des Alpes-Maritimes, nous donnait tout à l'heure sur RTL les derniers chiffres dont il dispose.
Pour les pompiers, donc quelques chiffres qui sont assez parlants quand même, 3800 appels, il y a 900 interventions qui ont pu être réalisées à cause de ce phénomène météo, 41 sont toujours en cours. Ça a mobilisé quand même 600 sapeurs-pompiers hein, avec un renfort de 61 hommes supplémentaires en provenance des Bouches-du-Rhône. Et puis par moment, eh bien, lorsque c'était la seule solution pour procéder à des mises à l'abri ou à des secours, il y a eu 34 hélices sauvetage. Hein, donc l'hélicoptère a aussi beaucoup tourné. Les trains sont toujours bloqués. Pour l'instant, il faut que l'on refasse le pont avec la SNCF pour savoir à partir de quand les liaisons pourront être rétablies.
Le sous-préfet des Alpes-Maritimes, Johan Boutens, qui était avec vous tout à l'heure, Stéphane. Alpes-Maritimes, où vous vous trouvez, Mickaël Lefebvre, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes précisément dans la zone commerciale des Tourades, c'est à Mont-de-Lieu, et là, c'est la rivière La Siagne qui est en crue et qui provoque des inondations.
Effectivement, Agnès, pratiquement toute la zone d'activité est sous l'eau depuis hier après-midi. Les magasins ont rapidement dû être évacués à mesure que la Siagne prenait du volume. La rivière a fini par déborder et sur les parkings, le toit de certaines voitures dépasse à peine de cette eau marron et boueuse. Sébastien possède un entrepôt dans la zone. Il a tenté ce matin de constater les dégâts.
J'ai un dépôt un petit peu plus loin qui est tout inondé avec beaucoup de matériel. Et donc, je vais voir si je peux y accéder, mais apparemment, c'est pas possible. Quoi.
On verra bien ce qu'on fait avec les ouvriers demain, si on les met au chômage, si on ne sait pas.
Combien d'ouvriers?
Une dizaine.
Donc possibilité de chômage technique pour eux.
C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Selon ce qu'on va découvrir, ce qui a été inondé, si les camions sont utilisables ou pas, on verra.
Malgré la pluie qui continue de tomber, une bonne nouvelle tout de même, la Siagne a amorcé une légère décrue. Josiane est une habitante du quartier.
Hier soir, on a eu du mal à rentrer et la police a été quand même très à la hauteur parce qu'ils ont bien encadré, ils ont fermé les routes qui étaient impraticables. On n'a pas d'électricité, alors je vais boire le café à la boulangerie, s'il y en a.
2000 foyers sont en effet privés d'électricité ce matin dans l'ouest des Alpes-Maritimes, principalement aux alentours de Villeneuve-Loubet, Cannes et Mandelieu.
Le reportage de Mickaël Lefebvre pour RTL à Mandelieu, près de Cannes.
Voilà les habitants qui réagissent en direct sur la page Facebook. On a justement Marie qui est habitante de Mandelieu et qui nous précise qu'il pleut toujours mais que tout est recouvert de boue. Heureusement, il n'y a pas de victimes. On va aller à Nice, Agnès. C'est Alain, auditeur de RTL Matin Week-end, qui est en ligne avec nous au téléphone. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Stéphane.
Ça ressemble à quoi, la promenade notamment?
Alors la promenade, moi j'ai des amis qui étaient tout à l'heure, ils m'ont dit que c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment c'est dévasté. Heureusement, enfin moi je suis dans le centre de Nice, là ça semble s'être vraiment calmé depuis quelques minutes. Bon, maintenant c'est tout par vague, hein, donc ça risque de revenir aussi quand même.
Hein. Oui, bien sûr, il y a eu la sirène à Nice hier aussi. Hein.
La sirène, écoutez, personne ne l'a entendue, moi je ne l'ai pas entendue, pourtant je suis dans le centre, si vous connaissez un peu Nice, je suis Acropolis, hein, donc Acropolis, c'est vers le Palais des Congrès. Rien entendu, j'ai des amis qui étaient à Libération qui n'ont pas entendu non plus. Alors, je sais pas. Je crains que, si vous voulez, les sirènes soient, surtout dans les grandes villes qui sont assez étalées, soient peut-être un peu trop sectorisées, quoi. Il faudrait peut-être qu'il y ait, enfin, je pense que ça paraît l'évidence. Il faudrait 3 ou 4 sirènes, quoi, enfin, réparties. Voilà, mais, donc sinon,
C'était impressionnant quand même.
Ah oui, c'était impressionnant. Oui, tout à fait.
Votre fille a été inondée, c'est ça, Alain?
Alors, ma fille, oui, est à Villars-sur-Var et oui, elle était inondée. Et j'ai des amis qui sont. On était vendredi soir dans une soirée dansante chez des amis à Montsartou, c'était Regrasse. Eh bien, alors là, c'était pour montrer, c'était l'apocalypse. Alors, mes amis aussi, là-bas, à Montsartou, sont inondés.
Merci du témoignage, Alain, depuis la ville de Nice. Merci à vous, Alain, qui n'a pas entendu la sirène, comme d'autres habitants. Merci du témoignage au 3210, 3210, c'est précieux pour informer tout le monde. Point complet sur la situation, bien sûr, à la fin du journal. Et puis, vous avez tout sur notre site rtl.fr. Dans un instant, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. Et la course à l'armement est contre-productive. C'est le pape François qui est au Japon pour un message hautement symbolique.
RTL Matin.
RTL Matin à 9h08, la suite du journal d'Agnès Bonfillon et avec vous Stéphane Carpentier.
Et c'est donc la première fois que le pape se rend au Japon, le pape François qui est à Nagasaki pour une raison bien précise.
Ah oui, d'abord cette ville sur l'île de Kyushu est un symbole avec Hiroshima. En 45, des bombes nucléaires ont été larguées par les Américains. Et justement, le souverain pontife Marie Guerrier appelle au désarmement, c'est le message qu'il vient de délivrer.
Oui, sous une pluie battante dans l'hypocentre de Nagasaki où tomba la deuxième bombe atomique en août 1945, le pape s'est dit convaincu qu'un monde sans armes nucléaires est possible et nécessaire.
La paix et la stabilité internationale sont incompatibles avec la peur de la destruction réciproque. Et elle ne peut pas reposer sur une menace d'anéantissement total.
Le pape plaide pour une éthique globale de solidarité et de coopération. Il demande aux dirigeants politiques de renoncer à ce climat de peur, de défiance et d'hostilité. Et il appelle à une réponse collective fondée sur la confiance mutuelle. Il soutient le traité d'interdiction des armes nucléaires initié par l'ONU il y a 2 ans. Et puis il insiste sur le gaspillage des ressources, l'argent dépensé, les fortunes gagnées à la fabrication, la modernisation, la vente des armes nucléaires. Des moyens qui pourraient, dit-il, être utilisés pour le développement et la protection de la nature. Le pape conclut avec la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. C'est le devoir de l'Église, dit-il, de promouvoir la paix sans jamais se lasser.
Marie Guerrier pour RTL. Dans le Parisien aujourd'hui en France, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, appelle le gouvernement à clarifier les choses avant le 5 décembre, histoire de désamorcer les tensions avant la journée de mobilisation, donc, hein, contre la réforme des retraites. Un sujet sur lequel Philippe Martinez, le leader de la CGT, sera interrogé tout à l'heure sur notre antenne. Il est l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Avant ce jour de grève nationale, le trafic ferroviaire sera perturbé, mais pour une toute autre raison. Demain et mardi, seuls un TGV sur deux circuleront entre Paris et les Hauts-de-France. Une modification des horaires des TER de la région provoque la colère des cheminots.
Agnès, on connaissait les vides greniers, mais pas encore les vides poulaillers.
Eh bien pourtant, c'est ce qu'organise un agriculteur de Fougères en Bretagne ce week-end. En fait, Olivier Sourdin propose aux gens qu'il désire d'acheter ses poules pondeuses bio, 3 euros la poule. Ça lui permet de renouveler son poulailler, chose qu'il est obligé de faire de toute façon hein, chaque année, de sauver la vie des gallinacés qui peuvent être toujours utiles pour les besoins d'une famille plutôt que de les laisser partir à l'abattoir. Nicolas Bobby.
Théo, 11 ans, et sa maman Céline pénètrent dans le poulailler bio d'Olivier Sourdin.
Je voudrais acheter une poule ou deux.
Eh ben, tu peux la choisir, tu vois.
Celle-là.
Ouhou. Tu la veux? C'est parti. Tu la prends, je te la donne. Voilà.
Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, elle va avoir une deuxième vie au lieu de finir, j'imagine, dans un abattoir.
Ouais, hein, c'est exactement ça. Et moi, mon objectif, c'est ça. C'est que, franchement, s'ils peuvent avoir une deuxième vie, c'est mieux.
Vendues 3 euros, ces poules pondeuses de 70 semaines, un peu fatiguées, produisent moins et vont être remplacées.
C'est qu'il y a trop d'œufs difformes. Et il y a une baisse de ponte naturellement. Et donc du coup, bah, le français, le supermarché, je dis, ne souhaite pas avoir des œufs difformes.
La cocotte tente de prendre la poudre d'escampette.
On va chercher le carton.
Et pour 10 poules achetées, la 11e est offerte.
Le reportage de Nicolas Bobby pour RTL.
En plus, on peut faire des affaires.
Non, mais c'est, en tout cas, c'est une très bonne initiative. Peut-être la fin du ticket de caisse, Stéphane. Pas très écolo, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, le ticket de caisse. Une proposition de loi sera présentée demain à l'Assemblée nationale en ce sens pour que les impressions ne soient plus automatiques pour les achats de moins de 30 euros dans les 3 ans à venir.
Le football est la 14e journée de Ligue 1. Angers profite de sa place de dauphin.
Ah oui, avec sa victoire face à Nîmes. Effectivement, le club est toujours sur la 2e marche du podium devant Marseille pour quelques heures. L'OM joue ce soir à Toulouse. Lyon, de son côté, relève enfin la tête. Victoire pour l'OL 2-1 face à Nice. Angers s'impose face à Nîmes 1-0, ce qui lui permet d'occuper provisoirement la 2e place du classement, je viens de le dire. À noter également les victoires de Dijon et Strasbourg. En Ligue 2, Stéphane, Lens remonte sur la première marche du podium. Les Sang et Or ont dominé le FC Sochaux 4-0. Un très bel hommage au lendemain du décès de Daniel Leclerc. Un hommage au druide qui a permis à Lens d'arriver en championnat en 98.
D'être champion de France. Le tennis Espagne-Canada. Hein.
Oui, c'est l'affiche de la finale de la Coupe Davis cet après-midi. Grâce à la nouvelle formule de la compétition, la France est directement qualifiée pour l'année prochaine, tout comme la Serbie. Donc, il n'y aura pas de phase éliminatoire en mars prochain.
Et puis, c'est une légende du basket. Tony Parker vient tout juste de prendre sa retraite.
À 37 ans, il a été l'un des premiers Français à jouer aux États-Unis en NBA, et surtout à être une star des Spurs, en l'occurrence. Avoir traversé l'Atlantique, ça a changé sa vie, il le sait.
Il faut penser à l'époque. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'Européens. Il n'y avait jamais eu un meneur européen qui avait réussi en NBA, donc ça faisait peur.
L'interview intégrale de Tony Parker, c'est ce soir sur RTL, dont on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France à partir de 19h30. Même si la majorité de sa carrière s'est faite aux États-Unis, Tony Parker occupe une place de choix dans le cœur des Français. C'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est ce que confirme d'ailleurs le baromètre Odoxa pour RTL et Groupama cette semaine, Eric Silvestro. Tipeee, T comme Tony, épée comme populaire.
Oui, populaire, le mot est faible, hein, tant Tony Parker, un peu comme Zinedine Zidane ou Teddy Riner, fait partie des grands ambassadeurs du sport français et son immense palmarès, 82% des sondés, le désigne meilleur basketteur français de l'histoire, parle autant que ses qualités humaines. 87% des Français le trouvent sympathique, 3 sur 4 proches des gens et 9 sur 10 souhaitent qu'il mette son aura au service du parent pauvre des sports collectifs en France. En effet, seulement 28% de nos concitoyens déclarent s'intéresser au basket contre 50% au football, 44% au rugby et 34% au handball. Le salut passera peut-être par de bons résultats sur la scène européenne et notamment en Euroleague que l'AZEL, club présidé par Tony Parker, dispute cette année. L'ancien meneur vedette des Spurs rêve à terme de la gagner, une ambition à laquelle croient 89% des Français. Ce n'est pas Teddy, mais Tipeee qui l'a dit.
Alors vous qui êtes jaloux depuis tout à l'heure, Stéphane, parce qu'on trouve Tony Parker très beau, sachez qu'il a chanté également.
Ah bon?
C'est lui ça.
Ah ouais, d'accord.
Prenez-en de la graine.
Agnès Bonfillon, RTL.fr, toute l'actualité.